Chapitre 20. Amusement de l'âme. Quelque plaisir que je trouvasse dans la petite maison de Mazolim, l'intérêt de mon âme me força de m'en arracher, et persuadé que ce ne serait pas là que je trouverais ma délivrance, j'allais chercher quelque maison où je fusse, s'il était possible, plus heureux que dans toutes celles que j'avais déjà habitées. Après plusieurs courses, qui n'offrirent à mes yeux que des choses que j'avais déjà vues ou des faits peu dignes d'être racontés à votre majesté, j'entrai dans un vaste palais qui appartenait à un des plus grands seigneurs d'Agra. J'y errai quelque temps. Enfin, je fixai ma demeure dans un cabinet orné avec une extrême magnificence et beaucoup de goût, quoique l'un semble toujours exclure l'autre. Tout y respirait la volupté, les ornements, les meubles, l'odeur des parfums exquis qu'on y brûlait sans cesse, tout la retraçait aux yeux, tout la portait dans l'âme. Ce cabinet, enfin, aurait pu passer pour le temple de la mollesse, pour le vrai séjour des plaisirs. Un instant après que je m'y fus placé, je vis entrer la divinité à qui j'allais appartenir. C'était la fille de l'homme rare chez qui j'étais. La jeunesse, les grâces, la beauté, ce je ne sais quoi qui seul les fait valoir et qui, plus puissant, plus marqué qu'elle-même, ne peut cependant jamais être défini, tout ce qu'il y a de charme et d'agrément composait sa figure. Mon âme ne put la voir sans émotion. Elle éprouva à son aspect mille sensations délicieuses que je ne croyais pas à son usage. Destinée à porter quelquefois une si belle personne, non seulement je cessais de me tourmenter sur mon sort, mais même je craignis d'être obligé de commencer une nouvelle vie. « Ah, Brahma, me disais-je, quelle est donc la félicité que tu prépares à ceux qui t'ont bien servi, puisque tu permets que les âmes que ton juste courroux a éprouvées jouissent de la vue de tant d'attraits ?»« Viens, continuai-je avec transport, viens, image charmante de la divinité, viens calmer une âme inquiète, qui déjà serait confondue avec la tienne, si des ordres cruels ne la retenaient pas dans sa prison. » Il sembla dans cet instant que Brahma voulut exaucer mes vœux. Le soleil était alors à son plus haut point, il faisait une chaleur excessive. Zéinis se prépara bientôt à jouir des douceurs du sommeil et, tirant elle-même les rideaux, ne laissa dans le cabinet que ce demi-jour aussi favorable au sommeil et au plaisir, qui ne dérobe rien au regard et ajoute à leur volupté, qui rend enfin la pudeur moins timide et lui laisse accorder plus à l'amour. Une simple tunique de gaze et presque toute ouverte fut bientôt le seul habillement de Zéinis. Elle se jeta sur moi nonchalamment. Dieu, avec quel transport je la reçus! Brahma, en fixant mon âme dans des sofas, lui avait donné la liberté de s'y placer où elle le voudrait. Qu'avec plaisir, en cet instant, j'en fis usage. Je choisis avec soin l'endroit où je pouvais le mieux observer les charmes de Zéinis, et je me mis à les contempler avec l'ardeur de l'amant le plus tendre, et l'admiration que l'homme le plus indifférent n'aurait pu leur refuser. Ciel, que de beauté s'offrirent à mes regards! Le sommeil enfin vint fermer ses yeux qui m'inspiraient tant d'amour. Je m'occupais alors à détailler tous les charmes qu'il me restait encore à examiner et à revenir sur ceux que j'avais déjà parcourus. Quoique Zéinis dormît assez tranquillement, elle se retourna quelquefois et chaque mouvement qu'elle faisait, dérangeant sa tunique, offrait à mes avides regards de nouvelles beautés. Tant d'appâts achevèrent de troubler mon âme. Accablée sous le nombre et la violence de ses désirs, toutes ses facultés demeurèrent quelque temps suspendues. C'était en vain que je voulais former une idée, Je sentais seulement que j'aimais, et sans prévoir ou craindre les suites d'une aussi funeste passion, je m'y abandonnais tout entier. Objet délicieux, m'écriai-je enfin, non, tu ne peux pas être une mortelle. Tant de charmes ne sont pas leur partage. Au-dessus même des êtres aériens, il n'en est point que tu n'effaces. Ah, daigne recevoir les hommages d'une âme qui t'adore. Garde-toi de lui préférer quelques villes mortelles, Zéinis, divine Zéinis. Non, il n'en est point qui puisse te rassembler. Pendant que je m'occupais de Zéinis avec tant d'ardeur, elle fit un mouvement et se retourna. La situation où elle venait de se mettre m'était favorable, et malgré mon trouble, je songeais en profiter. Zéinis était couchée sur le côté, sa tête était penchée sur un coussin du sofa, et sa bouche le touchait presque. Je pouvais, malgré la rigueur de Brahma, accorder quelque chose à la violence de mes désirs. Mon âme alla se placer sur le coussin et si près de la bouche de Zéinis qu'elle parvint enfin à s'y coller tout entière. Il y a sans doute pour l'âme des délices que le terme de plaisir n'exprime pas, pour qui même celui de volupté n'est pas encore assez fort. Cette ivresse douce et impétueuse où mon âme se plongea, qui en occupa si délicieusement toutes les facultés, cette ivresse ne saurait se peindre. Sans doute notre âme embarrassée de ses organes, obligée de mesurer ses transports sur leur faiblesse, ne peut, quand elle se trouve emprisonnée dans un corps, s'y livrer avec autant de force que lorsqu'elle en est dépouillée. Nous la sentons même quelquefois dans un vif mouvement de plaisir qui, voulant forcer les barrières que le corps lui oppose, se répand dans toute sa prison, y porte le trouble et le feu qui la dévore, cherche vainement une issue, et, accablée des efforts qu'elle a faits, tombe dans une langueur qui, pendant quelque temps, semble l'avoir anéantie. Telle est, à ce que je crois du moins, la cause de l'épuisement où nous jette l'excès de la volupté. Tel est notre sort que notre âme, toujours inquiète au milieu des plus grands plaisirs, est réduite à en désirer plus encore qu'elle n'en trouve. Et la mienne, collée sur la bouche de Zéinis, abîmée dans sa félicité, chercha à s'en procurer une encore plus grande. Elle essaya, mais vainement, à glisser tout entière dans Zéinis. Retenue dans sa prison par les ordres cruels de Brahma, tous ses efforts ne purent l'en délivrer. Ses élans redoutés, son ardeur, la fureur de ses désirs, échauffèrent apparemment celle de Zéinis. Et mon âme ne s'aperçut pas plutôt de l'impression qu'elle faisait sur la sienne, qu'elle redoubla ses efforts. Elle errait avec plus de vivacité sur les lèvres de Zéinis, s'élançait avec plus de rapidité, s'y attachait avec plus de feu. Le désordre qui commençait à s'emparer de celle de Zéinis augmenta le trouble et le plaisir de la mienne. Zéinis soupira, je soupirai. Sa bouche forma quelques paroles mal articulées, une ébelle rougeur vint colorer son visage. Le songe le plus flatteur vint enfin égarer ses sens. De doux mouvements succédèrent au calme dans lequel elle était plongée. « Oui, tu m'aimes !» s'écria-t-elle tendrement. Quelques mots, interrompus par les plus tendres soupirs, suivirent cela. « Doutes-tu, continua-t-elle, que tu ne sois aimé ?» Moins libre encore que Zéinis, je l'entendais avec transport et n'avais plus la force de lui répondre. Bientôt son âme, aussi confondue que la mienne, s'abandonna tout au feu dont elle était dévorée. Un doux frémissement. Oh, ciel, que Zéinis devint belle ! Mes plaisirs et les siens se dissipèrent par son réveil. Il ne lui resta plus de la douce illusion qui avait occupé ses sens qu'une tendre langueur à laquelle elle se livra avec une volupté qui la rendait bien digne des plaisirs dont elle venait de jouir. Ses regards, où l'amour même régnait, étaient encore chargés de feu qui coulait dans ses veines. Et quand elle put ouvrir les yeux, ils avaient déjà perdu l'impression voluptueuse que mon amour et le trouble de ses sens y avaient mise, mais qu'ils étaient encore touchants. Quel mortel, en se levant le bonheur de les voir ainsi, ne serait expiré de l'excès de sa tendresse et de sa joie ? Zéinis, m'écriai-je avec transport, aimable Zéinis, c'est moi qui viens de te rendre heureuse. C'est à l'union de ton âme et de la mienne que tu dois tes plaisirs. Ah, puisses-tu les lui devoir toujours et ne répondre jamais qu'à mon ardeur ? Non, Zéinis, il n'en peut jamais être de plus tendre, de plus fidèle. Ah, si je pouvais soustraire mon âme au pouvoir de Brahma, ou qu'il pût l'oublier. Éternellement attaché à la tienne, ce serait par toi seul que son immortalité pourrait devenir un bonheur pour elle, et qu'elle croirait perpétuer son être. Si je te perds jamais, âme que j'adore, et comment dans l'immensité de la nature, ou accablé de ces liens cruels dont Brahma me chargera peut-être, pourrais-je te retrouver ? Ah, Brahma, si ton pouvoir suprême m'arrache Zéinis, fais au moins que, quelque douloureux que me soit son souvenir, je ne le perde jamais. Pendant que mon âme parlait si tendrement à Zéinis, cette fille charmante semblait s'abandonner à la plus douce rêverie, et je commençais à m'alarmer de la tranquillité avec laquelle elle avait pris ce songe, dont quelques instants auparavant je trouvais tant à me féliciter. « Zéinis, me disais-je, est-ce sans doute accoutumée au plaisir qu'elle vient de goûter ? Quelque chose qui les ait pris sur ses sens, ils n'ont pas étonné son imagination. Elle rêve, mais elle ne paraît pas se demander la cause des mouvements dont elle a été agitée. Familiarisée avec ce que l'amour a de plus doux et de plus tendre transport, je n'ai fait que lui en retracer l'idée. Un mortel plus heureux a déjà développé dans le cœur de Zéinis ce germe de tendresse que la nature y a mis. C'est son image et non mon ardeur qui l'a enflammée. Elle connaît l'amour, elle en a parlé. Elle semblait, au milieu de son trouble, être occupée du soin de rassurer un amant qui peut-être est accoutumé à porter entre ses bras ses craintes et son inquiétude. Ah, Zéinis, s'il est vrai que vous aimiez, que dans l'état où m'a mis la colère de Brahma, mon sort va devenir horrible. Mon âme errait entre toutes ces idées, lorsque j'entendis frapper doucement à la porte. La rougeur de Zéinis à ce bruit imprévu augmenta mes craintes. Elle raccommoda avec promptitude le dérangement ou les erreurs de son sommeil l'avaient laissé, et, plus en état de paraître, elle ordonna qu'on entrât. « Ah ! Me dis-je avec une extrême douleur, c'est peut-être un rival qui va s'offrir à ma vue. S'il est heureux, quel supplice ! S'il le devient, que Zéinis soit telle que quelquefois je la suppose, et que ce soit à elle que je dois ma délivrance. Quel coup affreux pour moi si je suis forcé de me séparer d'elle après les sentiments qu'elle m'a inspirés. Quoique, par la connaissance que j'avais des mœurs d'Agra, je dusse être rassuré contre la crainte de quitter Zéinis, et qu'il fût assez vraisemblable qu'à l'âge de 15 ans à peu près qu'elle paraissait avoir, elle n'eut pas tout ce que Brahma demandait pour me rendre à une autre vie. Il se pouvait aussi que j'eusse tout à craindre d'elle de ce côté-là, et quelque cruel qu'il fût pour moi d'être témoin des bontés qu'elle aurait pour mon rival, Je préférais ce supplice à celui de la perdre. À l'ordre de Zéinis, un jeune Indien de la figure la plus brillante était entré dans le cabinet. Plus il me parut digne de plaire, plus il excita ma haine. Elle redoubla à l'air dont Zéinis le reçut. Le trouble, l'amour et la crainte se peignirent tour à tour sur son visage. Elle le regarda quelque temps avant de lui parler. Il me parut aussi agité qu'elle. Mais à son air timide et respectueux, je jugeais que s'il était aimé, on ne le favorisait pas encore. Malgré son trouble et son extrême jeunesse, car il ne parut guère plus âgé que Zéinis, il semblait n'en être pas à sa première passion, et je commençais à espérer que je n'aurais de cette aventure que le chagrin que je pouvais le mieux supporter. « Ah, Phéléas !» lui disait Zéinis avec émotion, « que venez-vous chercher ici ?»« Vous, que j'espérais y trouver, » répondit-il en se jetant à ses genoux, « vous, sans qui je ne puis vivre, et qui voulut bien hier me promettre de me voir sans témoin. »« Ah, n'espérez pas, reprit-elle vivement, que je vous tienne parole. »« Bon, sortons, je ne veux pas rester plus longtemps dans ce cabinet. »« Zéinis, répliqua-t-il, m'enviez-vous le bonheur de rester seul un moment avec vous ? Et se peut-il que vous vous repentiez si tôt de la première faveur que vous m'accordez ? Mais, répondit-elle d'un air embarrassé, ne puis-je pas vous parler ailleurs qu'ici ? Et si vous m'aimiez, vous vous obstineriez-vous à me demander une chose pour laquelle j'ai tant de répugnance ? Phéléas, sans lui répondre, lui saisit une main et la baisa avec toute l'ardeur dont Jaurès était capable. Zéinis le regardait languissamment. Elle soupirait, encore émue de ce songe qui lui avait peint son amant si pressant et où elle avait été si faible. Disposée encore plus à l'amour par les impressions qui lui en étaient restées, chaque fois que ses yeux se tournaient vers Phéléas, il devenait plus tendre et reprenait insensiblement un peu de cette volupté que mon amour y avait mise quelques moments auparavant. Malgré le peu d'expérience de Phéléas, sa tendresse, qui le rendait attentif à tous les mouvements de Zéinis, les lui laissait assez remarquer pour qu'il ne pût pas douter qu'elle le voyait avec plaisir. Zéinis, d'ailleurs, simple et sans art, ne cachant à Phéléas que par pudeur l'état où sa présence le mettait, en croyant lui dérober beaucoup du trouble dont elle était agitée, le lui montrait tout entier. Phéléas n'en savait pas assez pour triompher d'une coquette dont la fausse vertu et les airs décents l'auraient effrayé, mais il n'était que trop dangereux pour Zéinis qui, pressé par son amour, ignorait même, en craignant de céder, la façon dont elle aurait pu se défendre. Avec quelque plaisir qu'elle vit Phéléas à ses genoux, elle le pria de se lever. Loin de lui obéir, il les lui serrait avec une expression si tendre et des transports si vifs que Zéinis en soupira. « Ah, Phéléas !» lui dit-elle avec émotion. « Sortons d'ici, je vous en conjure !»« Me craindrez-vous toujours ?» lui demanda-t-il tendrement. « Ah, Zéinis, que mon amour vous touche peu !»« Que pouvez-vous craindre d'un amant qui vous adore, qui presque en naissant fut soumise à vos charmes, et qui depuis uniquement touché d'eux n'a voulu vivre que pour vous ?» Zéinis, ajouta-t-il en versant des larmes, voyez l'état où vous me réduisez. En achevant ces paroles, il leva sur elle ses yeux chargés de pleurs. Mais elle le fixa quelque temps d'un air attendri, et cédant enfin au transport que l'amour et la douleur de Phileas lui causaient. « Ah, cruel !» lui dit-elle d'une voix étouffée par les pleurs qu'elle tâchait de retenir. « Ai-je mérité les reproches que vous me faites? Et quelle preuve puis-je vous donner de ma tendresse, si après toutes celles que vous en avez reçues, vous voulez en douter encore ?»« Si vous m'aimiez, répondit-il, ne vous oublieriez-vous pas avec moi dans cette solitude ? Et loin d'en vouloir sortir, auriez-vous quelque autre crainte que celle qu'on ne vint vous y troubler ?»« Hélas, reprit-elle naïvement, qui vous dit que j'en ai d'autres ?» À ces mots, Phileas, quittant brusquement ses genoux, courut à la porte et la ferma. En revenant, il rencontra Zéinis, qui, devinant ce qu'il allait faire, s'était levé pour l'en empêcher. Il la prit entre ses bras et, malgré la résistance qu'elle lui opposait, il la remit sur moi et s'y assit auprès d'elle. Chapitre 21 et dernier. Je ne sais si Zéinis imagina que quand une porte est fermée, il est inutile de se défendre, ou si, craignant moi d'être surprise, elle-même ne craignit plus, mais à peine Phileas fut-il auprès d'elle, que, rougissant moins de ce qu'il faisait que de ce qu'elle appréhendait qu'il ne voulût faire, avant même qu'il lui demandât rien, d'une voix tremblante et d'un air interdit, elle le supplia de vouloir bien ne plus rien lui demander. Le tour de Zéinis était plus tendre qu'imposant, et ne fâcha ni ne contint Phileas. Couché auprès d'elle, il la serrait dans ses bras avec tant de fureur que Zéinis, en commençant à connaître combien elle devait le craindre, malgré elle, partagea ses transports. Quelque émue qu'elle fût, elle tâcha de se débarrasser des bras de Phileas, mais c'était avec tant d'envie d'y rester que pour rendre ses efforts inutiles, il n'eut pas besoin d'en employer de bien grand. Ils se regardèrent quelque temps sans se rien dire, mais Zéinis, sentant augmenter son trouble et craignant enfin de ne pouvoir pas en triompher, pria, mais doucement, Phileas de vouloir bien la laisser. « Ne voudrez-vous donc jamais me rendre heureux ?» lui demanda-t-il. « Ah ! » répondit-elle avec une étourderie que je ne lui ai pas encore pardonnée. « Vous ne l'êtes que trop. Et avant que vous vinssiez, vous l'avez été bien davantage. » Plus ces paroles parurent obscures à Phileas, plus il lui parut nécessaire d'apprendre de Zéinis ce qu'elle voulait dire. Il la pressa longtemps de les lui expliquer, et quelque répugnance qu'elle eût à parler davantage, il la pressait si tendrement, la regardait avec tant de passion, qu'enfin il acheva de la troubler. « Mais si je vous le dis, dit-elle d'une voix tremblante, vous en abuserez. » Il lui jura que non, avec des transports qui, loin de la rassurer sur ses craintes, ne devaient pas lui laisser douter qu'il ne lui manquât de parole. Trop ému pour pouvoir former cette idée, ou trop peu expérimenté pour connaître toute la force de la confidence qu'elle allait lui faire, après s'être encore faiblement défendue contre ses empressements, elle lui avoua qu'un moment avant qu'il entrât, s'était endormie et elle l'avait vu, mais avec des transports dont elle n'avait jamais eu d'idée. « Étais-je entre vos bras ?» lui demanda-t-il en la serrant dans les siens. « Oui, » répondit-elle en portant sur lui des yeux troublés. « Ah » continua-t-il avec une extrême émotion, « vous m'aimez plus alors que vous ne m'aimez à présent. »« Je ne pouvais pas vous aimer plus, » répliqua-t-elle. « Mais il est vrai que je craignais moins de vous le dire. »« Et après ?» lui demanda-t-il. « Ah, Phileas !» s'écria-t-elle en rougissant. « Que me demandez-vous »« Vous étiez plus heureux que je ne veux que vous le soyez jamais. Et vous n'en étiez pas moins injuste. Phileas, à ces mots, ne pouvant plus contenir son ardeur, et devenu plus téméraire par la confidence que Zénis lui avait faite, se soulevant un peu et se penchant sur elle, fit ce qu'il put pour approcher sa bouche de la sienne. Quelque hardie que fût cette entreprise, Zénis peut-être ne s'en serait pas offensé. Mais Phileas, uniquement occupé de se rendre heureux, porta son audace si loin qu'elle ne crut pas devoir lui pardonner ce qu'il faisait. « Ah, Phileas, s'écria-t-elle, sont cela les promesses que vous m'avez faites, et craignez-vous si peu de me fâcher ?» Quelque violents que fussent les transports de Phileas, Zénis se défendit si sérieusement, et il vit tant de colère dans ses yeux, qu'il crut ne devoir plus s'opiniâtrer à une victoire qu'il ne pouvait remporter sans offenser ceux qu'il aimait, et qui même, par la résistance de Zénis, devenait extrêmement douteuse pour lui. Soit respect, soit timidité, enfin il s'arrêta, et n'osant plus regarder Zénis, « Non, lui dit-il tristement, quelque cruel que vous soyez, je ne m'exposerai plus à vous déplaire. Si je vous étais plus cher, vous craindriez sans doute moins de faire mon bonheur. Mais, quoique je ne doive plus espérer de vous rendre sensible, je ne vous en aimerai pas moins tendrement. » En achevant ces paroles, il se leva d'auprès d'elle et sortit. Mortellement fâché que Phileas la quitta, et n'osant cependant pas le rappeler, la tête appuyée sur ses mains, Zénis pleurait et était demeurée sur le sofa. Inquiète pourtant du départ de son amant, elle se levait pour savoir ce qu'il était devenu, lorsque, ramené par sa tendresse, il rentra dans le cabinet. Elle rougit en le revoyant, elle se laissa tomber sur moi en poussant un profond soupir. Il courut se jeter à ses genoux, lui prit tendrement la main et, n'osant la baiser, il l'arrosa de ses larmes. « Ah, levez-vous !» lui dit Zénis sans le regarder. « Non, Zénis, lui dit-il, c'est à vos pieds que j'attends mon arrêt. Un seul mot. Mais vous pleurez. Ah, Zénis, est-ce moi qui fais couler vos larmes ?» La barbare Zénis, en ce moment, lui serra la main. Et tournant vers lui des yeux que les pleurs qu'il versait embellissaient encore, soupira sans lui répondre. Le trouble qui régnait dans ses yeux ne fut pas plus obscur pour Phileas qu'il ne l'était pour moi-même. « Ciel ! » s'écria-t-il en embrassant avec fureur. « Serait-il possible que Zénis me pardonnât ?» Zénis garda encore le silence. Hélas, Phileas ne perdit rien de ce qu'il semblait lui dire, et sans interroger davantage Zénis, il alla chercher jusque sur sa bouche l'aveu qu'elle semblait lui refuser encore. En cet instant, je n'entendis plus que le bruit de quelques soupirs étouffés. Phileas s'était emparé de cette bouche charmante où mon âme un instant avant lui. Mais pourquoi rappelais-je un souvenir encore si cruel pour moi? Zénis s'était précipité dans les bras de son amant. L'amour, à un reste de pudeur qui ne la rendait que plus belle, animait son visage et ses yeux. Ce premier trouble dura longtemps. Phileas et Zénis, tous deux immobiles, respirant mutuellement leur âme, semblaient accablés de leur plaisir. Tout cela, dit alors le sultan, ne vous faisait pas grand plaisir, n'est-il pas vrai? Aussi, de quoi vous aviez-vous de devenir amoureux pendant que vous n'aviez pas de corps? Cela était d'une folie inconcevable. Car, en bonne foi, à quoi cette fantaisie pouvait-elle vous mener? Vous voyez bien qu'il faut savoir raisonner quelquefois. Sire, répondit Amanzeï, ce ne fut qu'après que ma passion fut établie que je sentis combien elle devait me tourmenter, et, selon ce qui arrive ordinairement, les réflexions vinrent trop tard. Je suis vraiment fâché de votre accident, car je vous aimais assez sur la bouche de cette fille que vous avez nommée, reprit le sultan. Bon, c'est réellement dommage qu'on vous ait dérangé. Mais tant que Zeynis avait résisté à Phéléas, dit Amanzeï, je m'étais flatté que rien ne pourrait la vaincre. Et lorsque je la vis plus sensible, je crus qu'arrêtée par les préjugés de son âge, elle ne porterait pas sa faiblesse jusqu'où elle pouvait faire mon malheur. Oh, j'avouerai cependant que quand je lui entendis raconter ce songe, que j'avais cru qu'elle ne devait qu'à moi, que j'appris d'elle même que l'image de Phéléas était la seule qui se fût présentée à elle, et que c'était au pouvoir qu'il avait sur ses sens, et non à mes transports, qu'elle avait dû ses plaisirs, il me resta un peu d'espoir d'échapper au sort que je craignais tant. Moins délicat cependant que je n'aurais dû l'être, je me consolais du bonheur de Phéléas par la certitude que j'avais de le partager avec lui. Quelque chose qu'il eût dit à Zeynis de sa passion et de la fidélité qu'il lui avait toujours gardée, il ne me paraissait pas possible qu'il fût parvenu à l'âge de 15 ou 16 ans sans avoir eu au moins quelque curiosité qui l'empêcherait de délivrer mon âme de cette captivité qui m'avait longtemps paru si cruelle et que je préférais dans cet instant au poste le plus glorieux qu'une âme pût remplir. Tout désespéré que j'étais de la faiblesse de Zeynis, j'en attendis les suites avec moins de douleur. Dès que je me fus persuadé que quelque chose qui arriva, je ne serais pas contraint de la quitter. Quelque affreuse que fût pour moi la tendre léthargie où ils étaient plongés, et que chaque soupir qu'il poussait paraissait augmenter encore, elle retardait les téméraires entreprises de Phéléas, et quoiqu'elle me prouvât à quel point il sentait leur bonheur, je priais ardemment de permettre qu'elle se dissipât. Les pleurs de Zeynis, ses prières, ses ordres, ses menaces, rien n'arrêta Phéléas. Quoique la tunique de gaze qui était entre elle et lui ne le laissât jouir déjà que de trop de charme, et que ses transports l'eussent remise comme elle était pendant le sommeil de Zeynis, moins satisfait des beautés qu'elle offrait à sa vue que transporté du désir de voir celle qu'elle lui dérobait encore, il écarta enfin ce voile que la pudeur de Zeynis défendait encore faiblement, et se précipitant sur les charmes que sa témérité offrait à ses regards, il l'accabla de caresses si vives et si pressantes qu'il ne lui resta plus que la force de soupirer. La pudeur et l'amour combattaient cependant encore dans le cœur et dans les yeux de Zeynis. L'une refusait tout à l'amant et l'autre ne lui laissait presque plus rien à désirer. Elle n'osait porter ses regards sur Phéléas et lui rendait avec une tendresse extrême tous les transports qu'elle lui inspirait. Elle défendait une chose pour en permettre une plus essentielle. Elle voulait et ne voulait plus, cachait une de ses beautés pour en découvrir une autre. Elle repoussait avec horreur et se rapprochait avec plaisir. Le préjugé, quelquefois, triomphait de l'amour et lui était un instant après sacrifié, mais avec des réserves et des précautions qui, tout vaincu qu'il en avait paru, le faisait triompher encore. Zeynis avait tour à tour honte de sa facilité et de ses répugnances. La crainte de déplaire à Phéléas, l'émotion que lui causaient ses transports, et l'épuisement où un combat aussi long l'avait jeté, la forcèrent enfin à se rendre. Livrée elle-même à tous les désirs qu'elle inspirait, ne supportant qu'impatiemment des plaisirs qui l'irritaient sans la satisfaire, elle chercha la volupté qui lui indiquait et ne lui donnait point. À ce moment, outré du spectacle qui s'offrait à mes yeux et commençant à craindre de certaines idées de Phéléas, qui me prouvait son peu d'expérience, qui ne chassa mon âme d'un lieu où, malgré les chagrins qu'on lui donnait, elle se plaisait à demeurer, je voulus sortir pour quelques instants du sofa de Zeynis et éluder les degrés de Brahma. Ce fut en vain. Cette même puissance qui m'y avait exilé s'opposa à mes efforts et me contraignit d'attendre, dans le désespoir, la décision de ma destinée. Phéléas, ô souvenir affreux, moment cruel dont l'idée ne s'effacera jamais de mon âme, Phéléas, enivré d'amour et maître, par ces tendres complaisances de Zeynis, de tous les charmes que j'adorais, se prépara à achever son bonheur. Zeynis se prêta voluptueusement au transport de Phéléas, et si les nouveaux obstacles qui s'opposaient encore à sa félicité la retardèrent, ils ne la diminuèrent pas. Les beaux yeux de Zeynis versèrent des larmes, sa bouche voulut former quelques plaintes, et dans cet instant, sa tendre sœur ne lui fit point pousser des soupirs. Véléas, auteur de tant de maux, n'en était cependant pas plus haï. Zeynis, de qui Phéléas se plaignait, n'en fut que plus tendrement aimé. Enfin, un cri plus perçant qu'elle poussa, une joie plus vive que je vis briller dans les yeux de Phéléas, m'annoncèrent mon malheur et ma délivrance. Et mon âme, pleine de son amour et de sa douleur, alla en murmurant recevoir les ordres de Brahma et de nouvelles chaînes. « Quoi, c'est là tout ?» demanda le sultan. « Vous avez été sofa bien peu de temps, vous avez bien peu de choses pendant que vous l'étiez. »« Oh, ce serait vouloir ennuyer votre majesté que de lui raconter tout ce dont j'ai été témoin pendant mon séjour dans les sofas, » répondit Amanzai. « Et j'ai moins prétendu lui rendre toutes les choses que j'ai vues que celle qui pouvait l'amuser. Quand les choses que vous avez racontées, dit la sultane, seraient plus brillantes que celles que vous avez supprimées, et je le crois, puisqu'il est impossible d'en faire la comparaison, on aurait toujours à vous reprocher de n'avoir amené sur la scène que quelques caractères, pendant que tout s'était entre vos mains, et d'avoir volontairement resserré sur un sujet qui de lui-même est si étendu. Mais j'ai tort, sans doute, madame, répondit Amanzai, si tous les caractères sont agréables ou marqués au même point. Si j'ai pu les traiter tous, sans tomber dans l'inconvénient d'exposer à vos yeux des traits communs ou rebattus, et si j'ai pu m'étendre beaucoup sur une matière qui devait, quelque variété que j'eusse mise dans les caractères, devenir ennuyeuse par la répétition continuelle et inévitable du fond. En effet, dit le sultan, je crois que si l'on voulait peser tout cela, il pourrait bien avoir raison. Mais j'aime mieux qu'il ait tort que de me donner la peine d'examiner ce qui en est. Ah, ma grand-mère, continua-t-il en soupirant, ce n'était pas ainsi que vous comptiez.